Bleu RCFM.
France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Ça a démarré aujourd'hui et cela se poursuit jusqu'au 20 octobre. Je veux parler de la 13e édition du Festival du film documentaire Corsica Doc. La thématique cette année, indépendance au pluriel, les lieux de rendez-vous, l'espace Diamant à Diamant et également l'Ellipse Cinéma, notamment ce soir. Et puis pour en parler, nous recevons évidemment la créatrice du festival, la journaliste Annick Pénédjoule. Elle est accompagnée ce soir de la productrice Michèle Casalt et d'Olivier Adouchi, qui est notamment l'auteur d'une thèse autour du cinéma et des luttes de libération tricontinentale des années 60 à 70, auteur de plusieurs ouvrages, également programmateur et animateur dans de nombreux festivals. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci Bonsoir. D'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, Annick Pénédjoule. Michèle Casalt, vous êtes productrice alors, de plus d'une centaine de films, et également plus récemment, une série que la rédaction a adorée, c'est pour ça que je le dis, c'est Back to Corsica. Et je suis ravie de vous le dire en face, voilà, comme ça. Merci pour ce travail absolument formidable, même si vous êtes plutôt une productrice de films et de films documentaires, précisons-le.
Oui, oui, j'ai toujours produit des films documentaires et la série, c'était une exception.
Et une parenthèse enchantée voilà. dans votre travail
Enchantée, voilà, on va dire ça.
Mais quoi, ça a été difficile.
Mais oui, bien sûr, c'est difficile de faire une série encore sans argent.
Ouais.
Hein, on revient toujours à la même question. Et puis, mais c'était un plaisir aussi, c'était un vrai plaisir.
Alors, ce 13e festival du film documentaire, Annick, a une thématique, indépendance. C'est large et en même temps, ça résonne très fort sur notre territoire.
J'espère. Effectivement, on a mis du temps avec Olivier à cerner un peu les choses parce que c'est effectivement très large. D'abord géographiquement, puisque ça touche énormément de pays, c'est ce qu'on appelait auparavant le tiers monde. Donc on a un petit peu resserré sur l'ex-empire français, on va dire, mais quand même avec quelques incursions en Australie et à Cuba, avec cette idée directrice de montrer le cinéma qui a émergé à l'issue des guerres d'indépendance, des guerres de libération, un cinéma donc de décolonisation, on va dire ça, décolonisation des esprits, décolonisation du regard. Voilà ce qu'on a recherché avec Olivier.
Alors à découvrir le programme Indépendance du festival, mais également les films de la compétition Nouveaux Talents, les ateliers scolaires, les projections hors les murs, le lab dont nous parlerons avec Michèle, les débats. Et lorsque j'entends hors les murs, je crois que vous allez aller dans les villages cette année.
Alors, on y va en vérité toute l'année, mais cette année, pour la première fois, c'est le festival qui effectivement va se déplacer dans les villages pendant la durée du festival. Donc, deux films vont être repris pour l'instant dans deux villages. On espère faire plus l'année prochaine, mais le festival panafricain d'Alger va être pris à Biliya et le film La chasse au lion à l'arc de Jean Rouch va être pris dans le village de Solacaro.
Et ils seront accompagnés avec une présentation.
Absolument, par Olivier Adouchi qui va aller jusqu'à Biliya demain soir.
Et d'ailleurs, ce soir, pour la soirée d'ouverture, nous pourrons découvrir Festival panafricain d'Alger, dont vous nous parlerez, Olivier, dans un moment, si vous le voulez bien. Vous nous le présenterez pour nous donner envie d'y aller. Je rappelle que le festival a démarré ce matin à 10h. Ce soir, rendez-vous d'ailleurs à l'Ellipse Cinéma pour nos auditeurs.
Oui. Voilà. Oui, oui, absolument. À 21h.
À 21h.
Projection du film suivie de, d'un cocktail convivial.
Ah bah c'est normal, c'est l'ouverture tout de même.
Voilà.
Faut pas oublier le sens de la fête. Nous démarrons cette émission avec une chanson d'indépendance.
Thank you.
umanidad. No asuivo che ragateri di miseria e di puerta. Vir ingiustizia, ca vita serena, mi son teso spaventà. Ma me coscienza, pascola e gateri, radenti sa verità. Prudenza di amorità e in cussa fede sarà sempre in Gesù udriti in sommanità. Ma più un popolo sarà peso chiamando sa verità.
À l'instant sur RCFM dans Toc Toc, il est question de Corsica Doc, 13e édition du Festival du film documentaire qui a démarré aujourd'hui, qui se poursuit jusqu'au 20 octobre. Ce soir, rendez-vous pour l'ouverture à 21h au cinéma L'Ellipse et puis également à l'Espace Diamant tout au long de ces journées, de ces soirées consacrées au film documentaire. Je rappelle que la thématique cette année sont les indépendances et pour en parler, Annick Peigné-Djoule est avec nous, également Michel Casalt et Olivier qui va nous parler du film de ce soir, Olivier Adouchi, film que nous découvrirons à 21h. De quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit en fait d'un film qui a été tourné pour en quelque sorte immortaliser le festival panafricain d'Alger. Donc à l'époque, on est en 1969, on est dans un climat d'effervescence, l'indépendance de l'Algérie c'est 1962, il y a eu en 66 à Dakar le congrès, en fait, le festival, pardon, des arts nègres, donc qui avait été organisé par le Sénégal, par Senghor, mais c'était une conception, comment dire, liée à ce qu'on appelait la négritude. Et il y a beaucoup de mouvements de libération qui n'avaient pas été invités, parce que toute l'Afrique francophone a été libérée, mais il y avait encore un problème qui était à l'époque très urgent de résoudre, c'était l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait aussi les luttes très importantes contre le Portugal de Salazar, hein, avec la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Cap-Vert et aussi l'Angola.
Donc, on peut imaginer, Olivier, pardon, je vous interromps, que dans cette euphorie de libération, de décolonisation, il y a eu beaucoup, beaucoup de productions ou pas forcément ?
Pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de documentaires. En fait, la guerre d'indépendance algérienne a eu recours beaucoup, en fait, aux documentaires pour témoigner. On le voit encore, hein, souvent, la guerre, en fait, se produit pas uniquement sur le terrain des armes, mais sur le terrain, il y a une guerre des images. Ouais. Et on utilise beaucoup, beaucoup, la lutte, la guérilla. Donc, il y a des documentaristes, des reporters qui ont mis ça, en fait, en images. Donc, il y a quelques films. Et l'intérêt de ce film de William Klein, c'est qu'il va réunir des documentaires. Donc, on peut citer des cinéastes comme René Vautier. Il y a des Italiens, Bruno Muel, pas mal de cinéastes. Et de plusieurs pays qui ont, un peu comme pour le Vietnam, en fait. Hein, on va vraiment faire une guerre de l'image, montrer ce qui se passe vraiment. On va documenter et on va promouvoir l'indépendance. Et puis, il y a aussi le rôle de l'art qui est très important, de la poésie, qui cherche, en fait, à dire, voilà, vous dites tout le temps qu'on a une culture qui n'existe pas, il faut tout se plier à une culture unique, à une ce qu'on appelle civilisation entre guillemets, et ben il y a aussi des cultures populaires, il y a un génie populaire, il y a des chants, il y a des poèmes, il y a aussi du théâtre, et donc ce festival, il va essayer de se faire la synthèse de tout ça. Donc des images de films, de documentaires, et il va montrer une effervescence. Ça se passe à Alger, dans les grandes avenues. Donc c'est un peu comme, on va pas faire une comparaison un peu bête, mais c'est comme le ici cours Bonaparte. Donc c'est les grandes avenues haussmanniennes, et on se réapproprie la rue, on se réapproprie l'espace pendant quelques jours à Alger. Donc tout. Les beaucoup de pays d'Afrique et aussi les Black Panthers. Hein. Mmh. Il y a un moment clé du film qui va clore le film sans le dévoiler. C'est le jam en fait, la jam session, l'échange entre Archie Shepp, son orchestre Black Panthers, wow, et des musiciens Touareg du sud de l'Algérie. Donc c'est un peu ben, un dialogue qui se fait avec aussi la diaspora. Hein. Il y a beaucoup de de peuples qui sont éparpillés dans le monde. Donc l'idée en fait que promeut ce festival et ce film, c'est l'idée en fait que l'idée panafricaine, elle est aussi éparpillée. Donc on va réunir un petit peu tout ça, le temps d'un instant, en image à Alger, dans un climat d'effervescence.
Bon, le comte Napoléon n'a pas encore connu la décolonisation. Enfin, pas que je, pas que je sache, du moins. Mais il était difficile de faire une sélection exhaustive avec ce thème d'indépendance. Mais vous avez tout de même réussi à sélectionner beaucoup, beaucoup de films, Annick.
Oui, ben, il y a une vingtaine de films à peu près. Bon, on les a sélectionnés évidemment avant tout pour leur qualité, mais effectivement, ça finit par donner un tableau bon très très divers, très complexe de la décolonisation de l'image en tout cas.
Oui.
Et mais aussi par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois l'euphorie, on va le voir ce soir avec le film de William Klein, mais il y a aussi tout le questionnement qui traverse ces films. Olivier parlait des questions de aussi de la négritude, hein, qui peut nous faire écho par rapport aux questions de la corsitude, hein, ici. Et je pense que tout le monde a besoin de réfléchir à cette question, et toujours aujourd'hui, évidemment. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des films, donc de, par exemple, d'une jeune franco-algérienne comme Katia Camélie, qui se pose la question de l'image, de l'imagerie qui accompagne la décolonisation. Ce film est tout à fait récent, puisqu'elle vient de terminer le dernier chapitre de ce film. Donc depuis Cuba et les images, par exemple, de Santiago Alvarez, qui sont des images de contre-propagande par rapport à l'impérialisme américain, jusqu'au roman algérien de Katia Camélie. Voilà, ça fait des décennies d'efforts pour renverser les images d'un peuple.
Annick Pénédjouli, on pourrait quand même vous remercier pour le travail que vous effectuez depuis donc 14 années. Non mais franchement, parce qu'à l'époque, des films documentaires, on n'en voyait pas dans les festivals en Corse. Et même ailleurs, c'était difficile de pouvoir voir des documentaires. Et forcément, lorsqu'on ne peut pas avoir de support pour ce type de cinéma, eh bien, c'est un cinéma qui a du mal à émerger. Et pourtant, il est encore là, ce cinéma du réel, et il nous touche particulièrement. Et je trouve que là, il est vraiment en plein développement, parce qu'on a plusieurs supports où on peut le trouver, que ce soit sur les plateformes numériques ou encore les chaînes de télé. Et les festivals de cinéma qui s'y sont mis parfois tardivement, n'est-ce pas, Michael Andréani?
Oui, effectivement. Hein. Bonsoir.
Et merci
bonsoir
d'être
à
là.
Tous. Les grands festivals de cinéma, vous le disiez, Marie, ont mis du temps, même beaucoup de temps, à mon sens, pour reconnaître, comme il se doit, le film documentaire. Quelques exemples parlants, si vous voulez bien, avec en premier lieu l'Italie et la Mostra de Venise. Il a fallu attendre 2012 pour que soit créée la section Venezia Classici l'année suivante, pour que le prix du même nom voit le jour. Une section qui projette, dans le cadre donc de la Mostra, des films restaurés et des documentaires, mais attention, des documentaires uniquement consacrés au cinéma, il faut le souligner. À noter tout de même, en 2013 à la Mostra, le Lion d'Or, la récompense suprême, a été attribuée pour la première fois dans l'histoire du festival à un documentaire. C'était Sacro Gras, de l'italien Gianfranco Rosi, sur les personnages hauts en couleur qui vivent à proximité du boulevard périphérique.
Rien à voir avec le thème du cinéma. Plus
non, ouais. Voilà. Pour le coup, donc là, c'était quand même à mettre en exergue. En France, en 2015, désormais, pour la première fois là aussi, un nouveau prix dédié au film documentaire naît au Festival de Cannes, 11 ans après la Palme d'Or attribuée à Fahrenheit 9/11 de Michael Moore et 59 ans après celle distinguant Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle. C'était d'ailleurs les deux seuls récompensant le genre à Cannes. Le nom de ce prix, L'Œil d'Or, attribué au nom de la SCAM, la société civile des auteurs multimédia, présidée à l'époque par la réalisatrice qui n'était autre que Julie Bertuccelli. On retiendra d'ailleurs pour L'Œil d'Or en 2017 que ce prix avait été décerné au documentaire Visage Village d'Agnès Varda et de JR, où ces derniers sillonnaient la France des campagnes à bord de leur camion photomaton et allaient de rencontre en rencontre. Œuvre qui a quand même été primée à Toronto, à Vancouver, nominée aussi pour l'Oscar du meilleur film documentaire 2018. Et je terminerai par l'Allemagne et le prix du meilleur documentaire de la Berlinale qui a été lancé là en 2017 seulement, il y a deux ans. Donc imaginez, hein, il récompense là le meilleur film documentaire parmi toutes les sections du festival. Prix qui fait suite quand même à l'édition précédente, celle de 2016, où L'Ours d'Or avait été récompensé, ou plutôt avait récompensé le documentaire Fuoco Amar, encore de Gianfranco Rosi, pour cette œuvre tournée sur l'île de Lampedusa en pleine crise migratoire en Europe. Docu qui avait reçu le prix du jury œcuménique, là aussi à la Berlinale la même année, et nommé encore une fois pour l'Oscar du meilleur film docu en 2017. Alors, on peut terminer par cette question, cette interrogation. Est-ce que les festivals de films documentaires ont contribué à cette évolution progressive dans les festivals de cinéma, j'ai envie de dire global? Ben moi, j'aime à penser que oui, quand même.
Ben évidemment, c'est bien grâce au festival de films documentaires, Annick, Olivier, Michel, qu'aujourd'hui, le film documentaire existe partout. On ne peut pas s'en passer. Arte Mare, tiens, en 2019, après 30 ans de création, a initié une section film documentaire Corse. Donc, c'est bien la preuve.
Oui, tout à fait. Mais on peut aussi noter la présence maintenant très forte du cinéma documentaire en salle. Il y a à peu près chaque année 120 films documentaires qui sortent en salle. Et c'est exponentiel, ça ne cesse pas. Voilà, puis sans doute une date historique aussi, ça a été la présence du film de Nicolas Philibert en 2002 au Festival de Cannes.
Oui.
La montée des marches de Nicolas Philibert avec tous les enfants du film Être et Avoir. Disons que c'est à ce moment-là, ça a basculé. Je pense pour le film documentaire.
Le Corsica Doc Lab, ça aussi c'est une nouveauté. C'est la possibilité pour la première année d'organiser un atelier professionnel, un tremplin pour le documentaire de création à la télévision. Alors 5 projets de films documentaires ont été retenus. Michel Casal, vous nous parlez de ce projet?
Le projet, on essaye de le mettre en forme pour cette première année, mais ça fait plusieurs années qu'on y pense, qu'on réfléchit. À partir de quoi? À partir déjà des films qu'on voit autoproduits, qui nous arrivent dans la sélection Corsica Doc, où on voit des génériques où les gens ont travaillé avec rien, sans argent, ouais, pour finalement faire un objet documentaire qui leur prend des années et des années. De l'autre côté, on a ici une chaîne de télévision qui a un peu de liberté quand même, qui est peut-être un peu moins formatée ou formatable que les autres antennes de France Télévisions. Et il y a un vrai désir de cinéma qui s'est exprimé avec les différents directeurs et directrices de la chaîne.
Est-ce qu'il y a toujours eu du documentaire, je pense à Diane, sur la chaîne France 3 Corse VST, là, dès sa création,
où c'est arrivé? A priori, oui. Ouais. Il y a toujours eu du documentaire. En même temps, c'est toujours difficile de démêler ce qui est de cinéma et de documentaire télé là-dedans, c'est-à-dire du formatage. Or ici, on peut échapper un peu au formatage dans la mesure où les durées peuvent excéder les 52 minutes réglementaires, les discours déjà, enfin... On essaye, en tout cas cette année, de mettre en place un atelier qui soit un endroit où la télévision va pouvoir entendre les projets des réalisateurs sur une durée longue. On va entendre des jeunes réalisateurs qui sont en pleine écriture, en plein développement, qui auront tout loisir d'exposer leur travail à une responsable de chaîne nationale et à la responsable des documentaires sur VST, là, qui vont pouvoir peut-être produire enfin un objet de cinéma pour la télévision dans une durée qui soit propre au film et un regard d'auteur. C'est surtout ça qu'on cherche. C'est un regard singulier. On n'est pas en train de chercher un documentaire sur une thématique, sur ceci ou sur cela. On est surtout en train de chercher des gens qui ont quelque chose à dire sur le monde.
Et sur quels critères ont-ils été sélectionnés, Michel?
J'ai envie de dire sur mes critères. C'est tellement subjectif tout ça. C'est tellement... Non, j'ai travaillé avec une jeune fille qui sort du Créatac à Corté, qui s'appelle Gaëlle Tarditi, qui est une jeune réalisatrice. Et on s'est confrontés toutes les deux dans nos choix pour aboutir à un choix de 5 projets. Moi, j'ai une tendance à aller vers tout ce qui était radical, tout ce qui était très cinématographique, c'est-à-dire très peu explicite, très peu informatif, pas du tout même, sur des objets difficiles. J'ai mis la barre très haut. Donc on a finalement impitoyablement refusé les projets qui nous semblaient trop près du reportage. Et on est allé vers des objets qui étaient avec des images, c'est-à-dire nos réalisateurs nous ont envoyé des dossiers en écriture et des images en repérage. Donc sur les images en repérage, on voit.
Bien sûr. Un ou deux projets pourraient ainsi être retenus en vue d'une coproduction. Donc ça, c'est...
Oui. On croise les doigts.
Oui. Pourquoi peut-être aucun ?
Ben pourquoi pas aucun ? Je veux dire, c'est les chargés de programme qui font un peu la loi là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, ça m'intéresse de travailler avec telle réalisatrice ou tel réalisateur, ou bien ces objets-là n'ont pas de place sur nos antennes. Mais je pense que c'est une petite bataille entre nous qui c'est un apprentissage commun. À nous de trouver des ponts, de trouver des passerelles. Alors si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, pour que ces films-là puissent trouver leur place à la télévision, même à 23h à minuit, on s'en fiche, mais puissent se travailler avec du temps et un peu d'argent, parce que la télévision ouvre le CNC en même temps. Donc c'est un peu moins autofinancé que des gens qui partent tout seuls avec leur caméra pendant des mois et des jours et des années.
Bien sûr.
Si je peux me permettre, Michel, ce qu'elle exprime là, c'est quelque chose qui renoue avec une vieille tradition aussi de la télévision, parce que tout à l'heure on parlait du travail des festivals, mais il ne faut pas oublier que la télévision a joué un rôle formidable pour l'émergence d'un documentaire de création, que ce soit les chaînes comme Arte avec l'émission comme La Lucarne, etc. Il y a eu il y a peut-être beaucoup moins aujourd'hui, on peut le regretter, mais il y a eu un travail qui s'est fait là, de création documentaire absolument formidable. Et là, la belle idée de ce Corsica Doc Lab, c'est que ça renoue avec cette tradition forte.
5 projets donc retenus, avec peut-être au bout un projet ou 2 ou même 3, les savoirs seront retenus pour 5. Une coproduction. Alors 5, ce serait carrément le rêve, n'est-ce pas, mesdames, messieurs. Olivier Adouchi, quel autre film dois-je aller voir absolument ? Je ne parle pas du film de clôture que j'ai eu le bonheur absolu de voir.
Si, parlons-en.
Bon, le film de clôture est absolument incroyable et je vous remercie de l'avoir envoyé, permis de le voir, Talking About Trees, qui est un film absolument incroyable d'un cinéaste soudanais, un film qui sera présenté à la soirée Palmarès le samedi.
C'est un film en avant-première qui va sortir en salle en décembre, donc un cadeau pour les Ajacciens.
Qui a envie d'en parler, Olivier ?
Pour faire un petit panorama, dans les films, il y a la bataille d'Alger de Malek Ben Smaïl, qui est vraiment un film très intéressant, qui revisite un film, donc la bataille d'Alger de Pontecorvo, qui a eu un rôle aussi très important, qui avait été montré à Venise, qui avait suscité des polémiques parce qu'il parlait notamment de la torture, de la répression.
Grand prix à Venise, déjà.
Grand prix à Venise, boycotté à l'époque par la sélection française qui avait quitté la salle brutalement. Après, le film est ressorti. Et c'est un film qui a eu un regain, comme le montre bien ce documentaire de Ben Smaïl, un regain d'histoire à l'heure de la guerre en Irak et ce genre de choses, où on est à l'heure de la contre-insurrection. Donc c'est un film qui est très intéressant parce qu'il montre, en retrouvant aussi tous les personnages de ce film, le rôle qu'il a pu avoir dans l'histoire. Donc ça montre que le cinéma est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. Et il y a aussi les films...
C'est demain à 21h, me semble-t-il.
C'est ça, demain à 21h au cinéma Ellipse.
En présence du réalisateur,
donc Malek Ben Smaïl, qui est un jeune documentariste qui fait des documentaires souvent à la fois un esprit critique sur l'Algérie de l'après-indépendance. Il va traquer un petit peu les mots, comme pourrait le faire dans un autre style évidemment, mais Depardon ou Wiesmann. On va traquer les mots, donc aliénation, la question de l'éducation, la question aussi de la corruption politique. Enfin, de manière très courageuse, il va toujours
très
scruter l'Algérie indépendante de manière très politique. comme Diani, qui a aussi, dans les films qu'on a montrés, l'indépendance, c'est un rêve. L'indépendance, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir comme un cauchemar, comme un regret, comme une nostalgie. Donc, on a voulu explorer aussi ces facettes. C'est quelque chose de poétique. C'est à la fois poésie et politique. Donc, c'est aussi, même d'ailleurs, l'indépendance, beaucoup de films posent cette question-là. C'est qu'une fois qu'elle est acquise, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que des fois, on peut avoir une indépendance sans une indépendance formelle? C'est quelque chose de très compliqué. Et il y a des films d'Amérique latine.
Et puis il faut se reconstruire. Parfois c'est compliqué financièrement, au niveau matériel, lorsqu'il faut se reconstruire. Donc pour la création, c'est compliqué.
Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi des systèmes de coproduction. Ben là, on voit le film qui va revisiter donc ces cinéastes soudanais qui donc c'est Talking About Trees et qui travaillaient donc faisaient des films. C'est des gens qui sont plutôt dans une sensibilité de gauche progressiste et qui font face après un régime soudanais qui est devenu conservateur, intégriste. Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Pareil pour le film La Fièvre. L'indépendance et le cinéma, c'est un peu une fièvre. Où les statues meurent aussi, on va explorer les moments de crise. Et dans La Fièvre, par exemple, c'est le regard d'une jeune fille qui se souvient, en fait, de ses rêves d'indépendance. Et c'est au Maroc contemporain. Donc là, on a eu ce qu'on a appelé les printemps arabes, et au Maghreb, donc, et au Moyen-Orient, et récemment en Algérie, qui vont justement dire, mais que reste-t-il de cette indépendance? Que reste-t-il de ses rêves? Et la plupart de ces films montrent que l'indépendance, c'est aussi d'aller vers l'autre. C'est pas simplement un repli. C'est justement parce qu'on se retrouve un petit peu, comme dans les films de la négritude ou la poésie de Saint-Gore de Césaire, c'est parce qu'on se retrouve qu'on peut aller aussi vers l'autre et qu'on est dans une démarche d'échange, de partage. Par exemple, la bande-annonce du film « Indépendance cha-cha-cha », ben c'est l'hymne national du Congo et c'est un rythme, c'est un cha-cha-cha, donc c'est un rythme latino-américain. Il y avait eu des échanges des musiciens avec Cuba. Donc c'est ça, cette espèce d'effervescence années 60-70. On est aussi proche de Woodstock, hein, de tout ce qui est fait là, tout ce qui est Jimi Hendrix, Miles Davis, aussi le renouveau de la chanson à texte, hein, avec Brel, Brassens. Donc on est dans des plein de choses différentes, mais dans une espèce de bouillonnement. Et c'était intéressant de revisiter. Il y a un film aussi qui est très beau qui s'appelle Taïa Didou, donc Vive Didou de Zinette. Alors Zinette, on l'a un peu oublié, c'est un acteur qui joue dans des films comme Dupont-la-Joie, dans des films comme ça. Il joue souvent le rôle du travailleur immigré, mais c'est aussi un très grand comédien qui a fait ce film avec Bruno Muel. Bruno Muel qui avait été un grand voyageur, qui avait été, au Chili, Septembre chilien, c'est lui qui l'avait tourné. Il avait été aussi en Algérie avec Marceline Loridan Evans pour Algérie année zéro. Il avait aussi été en Centrafrique pour parler un peu de l'exploitation du diamant, et dans un film qui s'appelle Sanga, dont on voit un extrait dans le Festival Panafricain d'Alger. Mmh. Et donc, toutes ces personnes ont travaillé avec Zinette, et Zinette donc, rappelle des séquences tragiques comme la torture, mais il y a aussi l'ouverture à l'autre, à travers un personnage qui est joué par le véritable Georges Arnaud. Georges Arnaud, c'est le romancier du Salaire de la Peur, donc qui arrive à Alger, et puis on fait bien la différence entre une séquence historique, tragique, et la guerre et la répression, la guerre d'indépendance, qu'on pourrait dire la bataille d'Alger, et aussi une nouvelle Algérie, avec la jeunesse, avec un regard poétique. Et ça concerne aussi les films de Ousmane Sembène, ou de Djibril Diop Mambéty, ou de Joris Evans. Demain à Anguilla, donc on voit cette espèce de rêve éveillé, avec cet espoir en fait, hein, qu'on a vu, avec aussi Che Guevara qui est présent dans le film cubain. Donc après, on peut avoir un regard critique, on peut considérer que c'est peut-être un peu naïf, mais il y a eu cette effervescence dont le cinéma documentaire.
Voilà ce qui arrive lorsqu'on demande à un coprogrammateur de nous parler d'un film. Eh bien, il nous parle de toute sa programmation dont il est très fier, il a raison.
Notre programmateur. Votre,
j'ai dit coprogrammateur. Et non, ne vous excusez pas, au contraire, prenez le temps qu'il faut pour nous parler de ces films et nous donner envie d'aller les voir. On se rend compte évidemment qu'il y a beaucoup de travail autour de cette programmation, et un travail qui est intelligent. C'est important de montrer toutes les formes de cette décolonisation, et je crois que vous y parvenez. En tout cas, on est curieux de découvrir tout ça. Il y a également la compétition Nouveaux Talents, signe de cette grande vitalité du cinéma documentaire, puisque vous avez sélectionné, je crois, 18 films.
Oui, 18 films sur près de 500 que nous avons reçus cette année.
Moi, je pense au jury.
Ouais, mais pensez aux sélectionneurs aussi. Ça a été franchement très difficile. Et là, on passe vraiment un cap. Va falloir qu'on s'organise l'année prochaine, parce que là, on était franchement débordés par le nombre de films. On les voit tous, évidemment. Et donc, ça a été un travail absolument colossal pour nous. Et le résultat, c'est une programmation qui est très très éclectique.
J'ai une solution très lâche, hein, si vous voulez.
Bah, allez-y, c'est
vous,
quoi?
Vous donnez une thématique, bah, comme non. ça resserre.
Non, non, justement, on a une thématique
censure,
par ailleurs.
Comme une censure.
Non, non, là justement, ce qu'on cherche, c'est, dans la mesure où ce sont des premiers films, c'est les premiers gestes cinématographiques vis-à-vis du monde qui nous entoure. Donc c'est ce qui nous permet, justement, par notre thématique, d'aborder complètement autre chose, quoi.
Bien sûr.
Mais là, les 18 films en question... Ça va d'un film de 7 minutes à un film de 81 minutes. On a eu beaucoup de courts-métrages et moyens-métrages. Mais en tout cas, ils sont remarquables par la diversité des formes qu'ils ont adoptées. Je dois dire que cette année, c'est particulièrement notable.
Michel Casalte, vous les avez vus, vous aussi? Les 500.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis sortie de cette affaire-là. J'avais senti venir les 500. Et il y a 2 ans, j'ai dit, je crois que je vais pas trop m'occuper de la sélection des jeunes talents parce
la
que
maligne.
Quand même.
Ouais.
Non, c'est-à-dire qu'à oui, un moment, il faut qu'on arrive à s'organiser d'une autre façon pour que le festival se professionnalise de plus en plus. C'est tout ce qu'on voit.
Bien sûr. Un mot sur les 5 projets qui ont été sélectionnés. Est-ce qu'on peut évoquer comme ça brièvement les thématiques abordées, s'il vous plaît?
Absolument. On a surtout sur les 5 réalisateurs, il y a 2 jeunes Corses. C'était pas une condition requise, hein, pas du tout. Et il se trouve que les 2 que j'ai sélectionnés sont aussi sélectionnés par Annick, curieusement, alors qu'on s'est pas du tout consulté, sélectionnés par ailleurs dans la programmation. Donc il y a une vraie cohérence tout à coup qui ça nous rassure et l'une et l'autre sur nos choix. Donc il y a Hugo Casabianca qui nous parle d'un type qui marche sur la côte orientale, un marcheur. Et son projet s'intitule « L'homme qui a vu l'homme qui a » et va nous raconter non pas qui est cet homme, mais les fantasmes que cet homme marcheur trimballe avec lui.
Ouais.
Ensuite, on a une autre jeune femme qui s'appelle Julia Montiner et qui a fait un film en Bolivie qui est programmé vendredi, je crois. Et Julia, elle écrit sur les femmes. Donc, c'est pas des portraits de femmes, c'est des rencontres. Elles sont mortes, elles sont vivantes. En tout cas, c'est ces femmes à elles qu'elles questionnent et qu'elles provoquent quelque part.
Les 3 autres sujets.
Et les 3 autres, on a un projet qui vient du Burkina Faso avec un homme scarifié qui nous raconte ce qu'est son corps comme un signe. Et lui-même se demande ce que ça signifie parce qu'il n'en a pas l'explication. Il sait qu'il en est couvert et il va interroger ses scarifications pour savoir qui il est. C'est des projets forts, hein. On a un projet sur qui est un moyen-métrage, court-métrage, documentaire sur une machine formidable qui est un bateau qui avale le train, qui va traverser le détroit de Messine. Donc le train, c'est le train vraiment des communistes originels qui descendent du nord au sud de l'Italie avec les travailleurs qui vont dans les rizières, etc. Et quand les travailleurs ont travaillé au nord, ils redescendent en bas en Calabre et finalement en Sicile. Et pour aller en Sicile, le train rentre dans le bateau avec les gens dans le train et ressort 20 minutes plus tard. Et lui, il fait un film sur la machine. Il fait un film sur l'érotisme de la machine.
Est-ce
que vous me suivez? Voilà. Et ces images sont des plans lumière. C'est-à-dire, c'est des belles images.
Sûr,
moi, j'ai vu la force de ces images. Alors, et le propos est poétique et politique en même temps. Et il n'est pas du tout écrit sur le papier dans une forme classique. Enfin, faut vraiment s'atteler à lire son dossier. Et puis, le dernier qui j'oublie, Playas Blancas. Playas Blancas, elle part du son. Elle travaille sur des bandes son. C'est une jeune équatorienne. Je pense qu'elle est d'origine équatorienne. Elle vit en France. On est au Chili. Et c'est un homme qui reçoit des cassettes que sa femme lui envoie de Bruxelles. Elle est partie parce qu'elle allait se faire arrêter par la police chilienne. Elle est révolutionnaire. Elle abandonne mari et enfant. Ils vont se parler par cassette interposée pendant des années. Et finalement, la réalisatrice Valentine a choisi de commencer par le son et de nous amener petit à petit sur ces lieux qui sont aujourd'hui au présent d'un amour qui s'est déserté à cet endroit-là de la vie. Et c'est très beau. On ne sait pas du tout si ce couple se reforme ou se disloque, Mais quelque part, peu importe. C'est un vrai risque de cinéma. Ça peut être raté. Mais alors, si c'est réussi, c'est une merveille, c'est une perle.
Vous êtes une merveilleuse conteuse d'histoire. Ça n'est pas anodin que vous soyez réalisatrice de documentaires.
Non, alors, ça m'intéresse.
Le Corsica Doc Lab, donc avec ses 5 projets. Et puis, il y a aussi les tables rondes. Quelle vision du monde projette les films de la compétition? Débat qui sera animé par vous, Annick Peignet-Djouli, avec les jeunes cinéastes en lice pour les prix Nouveaux Talents. Et puis, comment se réapproprier son image après l'indépendance entre les images festives pardonnez-moi, du film Festival Panafricain d'Alger, ou encore le roman algérien dont on n'a pas parlé, mais on va en parler dans un instant. Et c'est un débat qui sera animé par vous, Olivier Adouchi, historien du cinéma, avec les cinéastes et productrices présents et le responsable de la Cinémathèque d'Alger. Nous sommes descendus dans la rue parce qu'est-ce que vous vous posez la question, mesdames, messieurs, à savoir sur quel support les gens regardent du cinéma? Oui, vous vous posez la question tout le temps, je suis sûre, n'est-ce pas? Oui, non? Vous nous entendez?
Bien sûr.
Mais bien sûr, Marie. Eh bien, moi, j'ai demandé à Cécilia Cantelli, bonsoir Cécilia.
Bonsoir tout le monde.
D'aller dans la rue et de poser la question aux gens qu'elle croisait.
Exactement. Une fois n'est pas coutume, je suis allée dans les rues de Bastia et j'ai demandé aux gens quel était leur support préféré, ce qu'ils aimaient.
Cinéma et télévision, parce que j'aime bien aller au cinéma de temps en temps. J'étais au festival Artemar. Et puis, en ce qui concerne la télévision, parce que je suis une passionnée de cinéma, voilà.
Alors essentiellement la télévision, parce que je travaille en permanence sur des écrans. Donc le téléphone, l'iPad, j'évite. Sur Netflix, bien sûr. Je regarde beaucoup de replays. En replay, je regarde beaucoup de documentaires, notamment sur Arte, bien sûr. Dans les festivals aussi, j'essaye d'y aller le plus souvent, et au cinéma. Après, ça dépend de mon humeur, parce que c'est vrai que de plus en plus, on a des documentaires et des films qui collent à la réalité, et c'est vrai que la réalité n'est pas très joyeuse. Donc, quand je vais bien, je regarde beaucoup de documentaires, effectivement, sur le réchauffement climatique, des documentaires sur la guerre.
Netflix, hein. Il y a tout, j'ai que ça, j'ai même plus la télé à la maison, je regarde Netflix.
Sur iPad, essentiellement. Alors, le dernier que j'ai vu, c'est Diesel, un documentaire sur la vie des groupes de rock. C'était au cinéma de Fouriagne. Je constate qu'on nous en propose de plus en plus, notamment sur Arte et Canal+, par exemple.
Je sais pas, plutôt sur le téléphone. Ouais, c'est plus pratique, on est allongé sur son téléphone, c'est mieux.
Tu vas jamais au cinéma?
Rarement.
Télé. Parce qu'on peut fumer, on peut boire, on peut manger et on est tranquille, on est chez nous.
Principalement la télévision. Parce que je trouve qu'on est... c'est mieux pour d'avoir un peu de distance par rapport à l'écran, enfin ce genre de choses. Ouais, d'être dans mon canapé confortablement et ne pas être obligé d'avoir un autre support dans les mains. Un cinéma, c'est encore mieux.
Netflix, ordinateur, télé. Sinon, au cinéma, de temps en temps. Quand c'est des bons films, genre des sagas, des trucs comme ça. Sinon, peut-être le téléphone, de temps en temps. Sinon, le côté Netflix et téléphone, c'est côté plus pratique où voilà, on mange vite fait. Voilà.
Sur YouTube et sur Netflix. Documentaire historique, documentaire société. Mon documentaire préféré, je pense que c'est Cosmos, l'Odyssée de l'espace. C'est vraiment le titre que je préfère. Parce qu'en fait, on apprend quelque chose. On apprend un truc quand on regarde les documentaires, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres formes.
On apprend un truc avec les documentaires, ça c'est ce qu'on retient. C'est pas l'Odyssée de l'espace, je pense qu'il s'est trompé.
Non, je pense.
Ouais, il a confondu avec le film. Mais Cosmos, c'est un documentaire qu'on a peut-être tous vu. On retient beaucoup de Netflix. Enfin, je sais pas ce que vous avez retenu les uns et les autres.
Parce qu'on entend, oui. Moi, j'ai retenu qu'il y avait du boulot.
À propos de ça, si je peux me permettre, il y a aussi les ateliers scolaires qui sont une donnée très intéressante,
oui,
je trouve, dans le festival.
Ben oui.
Là, on a eu des écoliers de Corté, d'Ajaccio, d'ici, des environs, et on a eu vraiment le travail d'éducation où c'était eux qui nous faisaient en fait réfléchir et qui nous surprenaient par l'audace de leurs interventions. Il y avait des petits bonhommes comme ça et des jeunes écoliers qui nous posaient des questions extrêmement précises et extrêmement attentive à ce qu'elle voyait, et en fait on voyait vraiment que le documentaire n'est pas forcément ennuyeux. Justement, le film qui était montré, qui était La chasse au lion à l'arc, nous montrait que on peut apprendre effectivement, comme viennent le dire les personnes à l'antenne tout de suite, mais avec humour, de manière ludique. Et là, c'était vraiment une très belle expérience. Mmh. Je trouve que le festival, il y a aussi un travail d'éducation avec le jeune public, qui sont vraiment l'avenir des spectateurs.
Alors, c'est important ce que vous dites, Olivier Adouchi, parce que les ateliers scolaires que vous avez organisés, ça y est, ils sont passés, et ça a été apparemment très enthousiasmant. On a, pour la plupart d'entre nous, découvert le documentaire par l'école. Au commencement, le documentaire, c'était pédagogique, surtout.
Tout à fait, d'ailleurs c'est Annie qui avait choisi le film et c'était un très bon choix parce que...
Elle vous a intéressé ma question, hein. je vous en remercie. Je vous en remercie. Non mais c'est vrai, est-ce qu'on n'a pas découvert de Nuremberg à Nuremberg, ces grands documentaires par l'école, par le biais de l'école
C'est-à-dire par l'école oui. Dans les ciné-clubs sans doute. Moi,
ma génération,
enfin, en tout cas, c'était dans les ciné-clubs. Ouais.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Et puis, mais surtout effectivement par la télévision à l'époque, hein, c'était enfin à l'époque, en tout cas à toutes les époques, le documentaire était quand même un objet, l'objet favori de la télévision. Mmh. Non, moi je voulais revenir sur ce qu'a dit Olivier parce que c'était important. Les interventions des enfants sur le film, donc ils voient là un film au cinéma. Leurs interventions étaient extrêmement précises sur la question de la fabrication d'un film. Et c'est là où peut-être on peut trouver qu'il y a du bien dans le fait qu'ils aient accès à des images par leur téléphone, parce que ils savent ce que c'est que le montage. Je pense que quand ils essayent de faire des petits films avec leur téléphone portable, ils ont l'envie aussi que ça soit monté. Et du coup, ils nous ont posé ces questions-là du montage. Ils ont posé les questions des conditions du tournage. Et je trouvais que c'était vraiment des questions très, très matures. Et c'est sans doute l'effet, je veux dire, bénéfique.
De ces ateliers.
Il n'y en a pas beaucoup.
Non.
Pas de ces ateliers, mais peut-être de leur exposition aux écrans portables, mais surtout de leur envie de fabriquer des petits films leurs images.
Oui, ben vous êtes.
Bon, enfin, on va trouver du bien. Dans
oui,
tout
vous
ça.
Êtes très optimiste parce que.
Pour l'école.
Ouais, pour l'école, parce qu'on leur donne beaucoup d'applications qui leur permettent de faire des montages, des effets spéciaux très rapidement et surtout de se mettre en scène. Et là, ça devient compliqué et parfois même dangereux. Olivier,
voilà. Je voulais dire, par l'école, moi je me souviens, mais justement, c'est pas du tout moi qui l'ai choisi, donc je peux d'autant plus le dire que le choix du film était très bien, La chasse au lion à l'arc, parce que c'est un film effectivement qui est assez ludique. Moi j'ai enseigné un petit peu dans une école de cinéma ou à Nanterre un petit peu, et c'est vrai que j'avais montré par exemple, parce que je me souvenais aussi de mes cours, j'avais montré Nuit et brouillard, d'autres films, mais des fois je trouvais qu'on avait montré un peu, c'est vrai, le côté
j'avais
Nuremberg.
Vu à l'école aussi, hein, bien sûr.
Voilà, mais il y a un côté des fois un petit peu comme c'est à l'école, il y avait un petit côté je dirais pas terrorisant, mais un petit peu ardu, voilà, un peu rêche.
Ouais.
Et ce que je me dis, et là ce que ça m'a fait réfléchir cet atelier scolaire, c'est que en fait peut-être qu'il faut essayer, en tout cas c'est un très bon instrument le cinéma pour faire réfléchir sur le monde. L'école, ça serait vraiment bien qu'il y ait des... D'ailleurs on a eu demande de la part de la classe, hein, les enseignants, pour faire réfléchir. On a même eu des questions sur la société, sur la chasse, qui ont fait sur l'environnement, hein, sur le racisme aussi. Ça c'est des jeunes, c'est pas nous qui avons donné les sujets.
Film magnifique, hein, qui avait reçu le Lion d'Or du documentaire. Donc voilà, vous n'avez pas choisi n'importe quel film et vous avez bien fait. Vous restez avec nous pour peu de temps encore, mais on va vous faire réfléchir. Je vois que vous aimez bien ça. Mais en vous divertissant avec l'arrivée de Thomas Brondini dans un instant.
Et voilà, vous avez 40 ans. Et chez Atoll, on sait que vous avez survécu sans clim et sans GPS. Alors, vous devriez survivre à ce petit problème de vue qui baisse. Si vous êtes né avant 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. Atoll, mon opticien. Ce test n'est pas un examen médical.
MMA, interruption spéciale. Situation tendue à Vesoul.
Non, juste deux associés qui montent une entreprise.
Mais imaginez que l'un décède. Que deviennent ses parts? L'autre va perdre le contrôle de l'entreprise.
Non, avec la formule garantie croisée associée du contrat capital décès MMA, il disposera d'un capital pour acheter les parts du défunt. MMA, zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub.
Deux mois offerts pour toute adhésion au contrat capital décès MMA jusqu'au 31 octobre 2019.
Conditions en agence MMA.
Et voilà, vous avez 40 ans. Et chez Atoll, on sait que vous avez survécu à la Macédoine de la cantine, à des expressions craignos et à la mode des boys bands. Vous avez survécu sans clim, sans correcteur d'orthographe et sans GPS. Alors, si vous avez réussi à survivre à tout ça, vous devriez survivre à ce petit problème de vue qui baisse. Si vous êtes né avant 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. Atoll, mon opticien. Et le meilleur chaîne de magasins optiques de l'année. Ce test n'est pas un examen médical.
Da Zonza Santa Zevera, da Aburta Alata, RCFM, Insam et Simoa.
13e deuxième festival du film documentaire Corsicadoc. C'est à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'au 20 octobre entre l'Ellipse Cinéma et l'Espace Diamant. La thématique cette année, indépendance au pluriel. Des films, une vingtaine en tout sur cette thématique, mais également la compétition Nouveaux Talents, les tables rondes avec un questionnement, quelle vision du monde projette les films de la compétition ou comment se réapproprier son image après l'indépendance. Le Corsicadoc Lab qui va étudier 5 projets pour pouvoir peut-être les accompagner s'ils sont retenus avec une coproduction, le festival Hors les Murs dans les villages et puis les ateliers scolaires dont nous avons parlé avec nos invités Annick Pénidjouli, Michel Casalt et Olivier Adouchi. Aiguisez vos oreilles, chers amis, puisque Thomas Brondigne est là. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Marie, bonsoir
et
tout le monde.
Et c'est qui le champion?
C'est pour nous.
Voilà, ça c'est un privé joke pour Michel Casalt qui a certainement compris de quoi je voulais parler, Michel. Oui Michel?
Oui, ah ben j'ai tout compris.
Voilà, c'est un passage de...
On prépare la saison 2, Thomas.
De Back to Corsica, dans laquelle eh bien, vous jouez également, Thomas.
Bonjour, Michel.
Alors, voilà, Thomas vient dans cette émission et il nous propose un mash-up. Le principe, il va jouer un morceau avec la musique d'une chanson et les paroles d'une autre chanson. Il va mélanger le tout et à nous de découvrir les deux. C'est extrêmement difficile.
Non, ce soir, ça va très vite.
Il faut une coordination et je ne sais pas, ce type doit être au niveau moteur au-dessus de la moyenne. C'est quand
on s'adapte, on s'adapte. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite.
18 grèves de poubelles que je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du Migba ou du Banana qu'ont des piottes dans le noir ou au cinéma. Mais c'est des trucs pour l'atout et des pastilles et des cachous.
Il y a personne.
Alors,
vous n'avez
moi,
rien
j'ai les paroles.
Alors, il faut les deux. Hein.
Moi, j'ai les paroles.
Hein.
Est-ce que quelqu'un a la musique?
Pas possible.
Non. Ah, non, bien sûr, on connaît que ça, mais je me
Jonas pour les paroles.
Jonas quoi?
Brothers.
18 grèves de poubelle. Michel Jonas.
Oui. Oui, Super Nana, donc.
Super Nana, merci.
Très bien.
Ah, et pour la musique.
Et la musique, c'était Fly Me to the Moon.
Oui, bien sûr.
Let me see the moon, the star.
Bien sûr.
Eh bien, les gars, c'est un point pour moi.
Ah là là là.
Poursuivez.
C'est pas un demi-point, là enfin,
Pardon, un demi-point.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, il y en a d'autres.
Il y en a 15. Non, soyons sérieux. Attention. When, petite sœur, we just have to remember I'll be down. No more the whole dancing music sound all day long in my gown. When I'll be down, quand je serai KO, descendu des plateaux de phono poussés en bas par des plus beaux, des plus forts que
j'ai
moi.
J'ai les deux, la dame de Haute-Savoie, Cabrel.
Cabrel.
Et Souchon pour les paroles.
Mais c'est génial.
Quand je serai KO, elles s'entraînent la nuit, Marie.
Voir, elle m'appelle en private.
Elle s'entraîne, c'est pas possible.
Surtout ce qui est énorme, c'est que quand même, je pourrais laisser les autres gagner, mais non.
Une niaque terrible.
C'est très bien, ça nous soulage.
Un point et demi, et puis comme dirait, pour moi, comme dirait Alicia, bien sûr qu'elle compte, comme dirait Alicia Brunine, ça n'est pas juste, ils ont la même culture musicale.
Ouais, alors, et pourtant, tu ne trouves pas tout le temps, Marie, je dois dire que...
Pourtant, on se connaît Michael, si peu. On se connaît.
Ce soir, je ne comprends pas. Michael, que se passe-t-il?
Allez, je suis un peu éteint.
Troisième et dernier extrait.
Ah dommage, j'en avais 15. Sûr. Ok, c'est pas rien. Attention, ça va aller très vite. Binevoli, à part là, Subaïso, ou à Pesa.
Comme les rois mages en Galilée.
Gidio Galora.
Il a trouvé.
Les deux, nous avons les deux. Nous avons les deux.
Et les paroles?
Et Imouvrin, il venait Tenkome.
Oh là 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 là.
Génial.
Allez, bravo.
À vous deux,
bravo.
C'est parfait.
Demi-point.
Nathalie, Olivier Adouchi et Michael Andréane pour ce demi-point. Et
vous n'en voulez pas un dernier?
Si vous voulez rapidement, parce que je voudrais quand même laisser le mot de la fin à nos invités.
Ah pardon, alors rapido, allez.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplait un puissant gorille,
oh,
sans souci du Quand dira-t-on?
Alors, attention, j'ai les deux, moi.
Gare au gorille, gare au gorille, gare au gorille.
Ah oui, oui, qui sera.
Alors, le gorille Brassens.
Ouais, super.
Et oui, c'est Michel qui a trouvé les paroles. Michel Cazal.
Ah, Michel.
Non,
bravo.
Non, c'est l'air.
Non, non,
elle n'a rien dit.
J'ai rien dit, Marie. J'ai chanté.
C'est la Qui sera
ça, c'est Olivier qui l'a dit, le
premier. C'est une chose formidable.
Eh bien, Olivier, un point. Olivier, il n'est pas qu'historien en cinéma, il est également historien en chanson, comment dirais-je, de variété, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Thomas.
Merci à vous tous.
J'ai quand même gagné.
Merci, Thomas. Ciao, bon mari.
Ciao, Michel.
Corsica Doc, donc ça démarre aujourd'hui jusqu'au 20 octobre entre l'espace Diamant et le cinéma L'Ellipse, L'Ellipse Cinéma. Le mot de la fin, Annick Peignet-Giouli, il est pour vous.
C'est pas entre les deux salles, hein, c'est dans les deux salles.
Dans les deux cinéma. Salles. Pardon.
Voilà. Donc d'abord à l'Ellipse Cinéma et ensuite ce week-end à l'Espace Diamant. Voilà. Mais on vous attend nombreux, c'est tout ce que je peux dire.
Bon, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un pass pour voir tous les films?
Bah évidemment, oh, évidemment. Mais
oui. Et où vais-je pour me le procurer?
Eh bien là, à l'Ellipse Cinéma, et puis ce week-end à l'Espace Diamant.
Voilà. Et puis on peut également aller sur le site qui est très bien fichu de Corsica Doc. Vous verrez absolument tout, la grille des programmes, le détail des films, des rencontres, et voilà le détail de la thématique. Merci beaucoup d'avoir Merci. Été avec nous tous les trois.
Merci Marie.
Merci et
Merci.
À bientôt.
France Bleu RCFM.
Qui peut concurrencer MAF Pro?
Pour mes outils informatiques, des solutions très spécifiques, bien assurées. Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. MAF Pro assure aussi votre matériel, parce que nous savons que sans informatique, votre entreprise ne peut plus fonctionner. Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro.
L'Office de tourisme du pays d'Ajaccio.